wifi.fr.
Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Première partie.
Bonjour ou bonsoir. Nicolas Sarkozy avait promis de bannir l'esprit de mai 1968 qui nous invitait à vivre sans contrainte et à jouir sans entrave et qui nous aurait imposé le relativisme intellectuel et moral après avoir inversé les valeurs, les hiérarchies et les priorités. En juger par le résultat électoral au présidentiel de mai 2007, on pourrait croire que ces propos n'ont pas suscité une réprobation généralisée chez les citoyens. Mais peut-être faut-il être plus prudent, car si j'en crois un sondage effectué pour le compte de l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, les Français lui ont répondu à 74% qu'il était interdit d'interdire. Autrement dit, 74% de nos compatriotes estiment que la période de mai 68 a eu un impact positif sur la société. Mieux, cette opinion est partagée par 60% des sondés qui se disent de droite et 65% de ceux qui ont voté Sarkozy en 2007. Autrement dit, la question de la liquidation est purement et simplement liquidée. Reste que plus de 20 ans après la parution de la Pensée 68, essai sur l'anti-humanisme contemporain de Luc Ferry et Alain Renaud, de nombreux auteurs voient toujours dans mai 68 la source de tous nos maux. Et pas seulement en France, mais dans l'Occident en général, tout particulièrement aux États-Unis. Là-bas aussi, le sombre bilan du désastre des 60s déroule de longue date une liste quasi semblable de fléaux. Nihilisme, relativisme, égoïsme, fin des hiérarchies, mort de l'autorité, destruction de la valeur travail, corrosion de la morale du capitalisme, fin du mérite, tolérance pour les délinquants, ruine du patriotisme, et j'en passe. Dans un ouvrage passionnant et qui tranche dans l'incroyable production éditoriale que suscite le 40e anniversaire des événements de mai 68, Serge Audier explique que selon lui, la réaction à mai 68 est bien au cœur d'une partie du discours contemporain sur la crise des sociétés occidentales, que ce discours a été préparé de très longue date et qu'il a structuré durablement les débats intellectuels et politiques en France depuis 40 ans. Et Serge Audier d'ajouter, on ne peut pas comprendre la façon dont s'est effectué à la fin des années 70 le retour à l'idéologie libérale, puis la renaissance d'un discours qui se voulait républicain, si l'on ne prend pas en compte la relation et la réaction au legs de mai 1968. Titre de l'ouvrage de Serge Audier, La pensée anti-68, essai sur les origines d'une restauration intellectuelle. Il est paru aux éditions La Découverte. Serge Audier, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien élève de l'école normale de la rue d'Ulm, à Paris, agrégé et docteur en philosophie, vous êtes maître de conférences en philosophie morale et politique à l'université Paris-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Et sur notre table, donc, cette semaine, ce livre de plus de 350 pages qui, je l'ai dit, tente de comprendre cet essor d'un discours imputant à mai 68 tous nos maux. Alors, nous n'avons pas le temps, bien sûr, en quelques minutes, même si 40 minutes, c'est désormais très long en radio, de dresser la généalogie de cette offensive anti-68, mais ce que vous faites d'emblée remarquer, c'est que pour prendre la mesure de cette dynamique idéologique, il faut revenir à 1998, autrement dit au 30e anniversaire des événements. Et vous vous attardez, par exemple, sur deux ouvrages, celui de Tony Anatrella, prêtre et psychanalyste, intitulé « La différence interdite », et celui de Paul Maricouteau, néo-gaulliste, souverainiste, intitulé « Traité de savoir disparaître ». Pourquoi Serge Audier, plus particulièrement ces deux ouvrages, dois-je comprendre qu'il condense tout ce que vous avez à nous dire à propos de cette offensive anti-68 ?
Bien. D'abord, effectivement, vous avez raison de rappeler, juste quelques mots sur ce point, que les sondages le prouvent, il n'y a pas un rejet généralisé de la population française ou des électeurs français de mai 68, et j'avais été très prudent dans la formulation en disant qu'on ne pouvait pas dire qu'il y avait une pénétration de ce discours dans toute la société française. Pour autant, il est intéressant déjà de voir dans les sondages que, par exemple, la grève générale tend à être parfois sous-estimée, la crise de l'école est mise en avant comme un des legs de 68, et de ce point de vue-là, c'est vrai que globalement les sondages témoignent d'une adhésion ou en tout cas d'un regard plutôt sympathique, mais d'autre part je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi des éléments sinon de réticence, du moins d'interrogation sur 68. Alors effectivement j'essaye de montrer dans ce livre qu'un certain nombre de discours ont très tôt posé des éléments critiques de 68 et donc ces deux livres en 98 qui posent un jalon important. Celui de Tony Anatrella donc et celui de Paul-Marie Couteau. Je les crois non pas représentatif de la totalité des discours contre 68, mais représentatif déjà de certaines orientations. Donc le livre de Tony Anatrella et de Paul-Marie Couteau, malgré des points de vue différents, pointe un réquisitoire qui a des points de convergence assez intéressants. On développe l'idée que 68 a été avant toute chose un moment de déferlement individualiste, d'hédonisme, de destruction du lien social, et donc mai 68 aurait été un moment extraordinairement pathologique de la société française. Sans doute a-t-il été pour ses auteurs un événement qui a précipité les pathologies de la société française, mais il les a aussi révélées. Donc pour Anatrella, c'est surtout l'individualisme exacerbé, la fin du lien social. Pour Paul-Marie Couteau, c'est la mort de la politique, car Couteau parle d'un point de vue néo-gaulliste.
Alors justement, Serge Audier, on a l'impression, enfin ça c'est pas une impression, vous expliquez bien que le discours anti-68 au fond est partagé d'une façon peut-être pas égale, mais enfin partagé par la droite ou les droites et les gauches. Mais tout de même, derrière ces deux familles politiques, il y a tout de même une attitude qui est commune, il y a un pessimisme culturel très très fort.
Oui, je crois que le pessimisme culturel est un des traits fondamentaux de ces critiques générales, d'où le fait qu'un certain nombre d'auteurs que je mentionne fédèrent en quelque sorte ces critiques. Bon, j'évoquais par exemple Alain Finkielkraut qui est très connu, mais qui est assez représentatif d'une critique du mouvement des années 60 et de 68 dans laquelle peuvent se retrouver des intellectuels ou des citoyens ou des lecteurs qui se situent ou bien à droite ou bien à gauche, mais qui sont tous persuadés ou qui ont tous le sentiment que quelque chose dans la société moderne cloche, et ce quelque chose qui cloche, c'est la destruction d'un certain nombre de valeurs communes, la destruction du lien social, la destruction du langage, tout un ensemble de liens qui, pour ces lecteurs ou pour ces auteurs, faisaient sens.
Alors, à droite, plusieurs familles politiques, la droite traditionnaliste, l'ultra-droite, la droite nationale, la droite libérale. Pourquoi faites-vous tous ces distinctions ? C'est très, très sensible.
Ben, d'abord, je crois que c'est important politiquement, parce que tout de même, vous parliez du discours de Nicolas Sarkozy, et ce discours-là a tout de même cherché à fédérer toutes les droites, et notamment des droites qui, sur un certain nombre de dossiers extraordinairement importants, la relation aux États-Unis, la relation à la nation, la relation à l'Europe, sont profondément différents. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours peut fédérer toute une partie de la droite, pas toute la droite. Une partie de la droite centriste, par exemple, se retrouve pas dans ce type de discours. Vous avez vu, sont sorties les mémoires, par exemple, de Simone Veil. Il y a une page très intéressante de Simone Veil qui parle de 68 et elle en parle de manière très positive. C'était la révolte contre les grands patrons, de médecine, etc. Mais au-delà de ça, dans la droite, j'essaie de montrer qu'il y a aussi bien une droite qui est très attachée à la nation, à la tradition, qui est très anti-américaine. D'autre part, une droite qui est au contraire très fascinée par les États-Unis, mais en quelque sorte, pour des raisons parfois diverses, tous se retrouvent sur la contestation des mouvements des années 60 et de 68. Dans la droite traditionnaliste, par exemple, je parle d'un auteur, par exemple, qui s'appelle Monsieur Sevilla, qui est un journaliste du Figaro Magazine. Dans la droite traditionnaliste, on voit dans 68 un moment d'américanisation de la France. Et ce moment d'américanisation de la France serait catastrophique parce qu'il détruirait en quelque sorte la nation française et la culture française. D'autres, au contraire, qui se situent sur un pôle plus favorable aux États-Unis, sont extrêmement extrêmement critiques parce que parfois ils ont lu les néoconservateurs américains. Et donc ils reprennent en quelque sorte un réquisitoire des auteurs néoconservateurs américains à leur compte pour critiquer 68. Par exemple, je parle d'un auteur qui n'est pas très connu mais qui est assez significatif, qui s'appelle Yves Roucault, qui a écrit un plaidoyer pour le néoconservatisme américain et français. Et cet auteur-là est donc très pro-américain, contrairement à des auteurs comme Sevilla, mais il reprend à son compte toute la critique du relativisme et un certain nombre d'auteurs sont fustigés, comme Michel Foucault, Jacques Derrida, etc.
Alors, l'offensive anti-68 est donc portée par la droite, on pouvait s'y attendre. Maintenant, elle est aussi partagée par une partie de la gauche, et notamment, dites-vous, par la gauche de la gauche. Et là, c'est un peu plus étonnant.
Oui, c'est un peu plus étonnant et c'est un peu plus délicat. C'est-à-dire que il est parfois difficile de déchiffrer ces réquisitoires parce qu'ils se jouent sur un double registre. D'une part, et c'est le registre le plus important, c'est le thème de la trahison. Trahison des 68ards qui croise le thème de la trahison de la gauche. La grande trahison du tournant dit libéral de la rigueur après l'élection de François Mitterrand, mais au-delà la trahison du Parti Socialiste. Et donc le réquisitoire contre les 68ards prend place dans ce réquisitoire plus général d'une conversion supposée ou réelle de la gauche au libéralisme, voire au néolibéralisme.
Avec un livre qui fait date, parce qu'on a tous retenu le titre, hein, c'est le pamphlet de Guy Ockenheim, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary.
Voilà, c'est ça. Et qui dénigre donc le carriérisme d'un certain nombre de 68ards qui auraient trahi leurs idéaux. Et ce texte a été réédité par Serge Halimi, qui est une figure importante du monde diplomatique, qui reprend à ce compte et à certains égards radicalise parfois cette critique. Donc ça, c'est un point important. Mais toute l'ambiguïté, c'est le thème de la trahison. C'est-à-dire, est-ce que 68, en quelque sorte, le ver était déjà dans le fruit, ou est-ce que, en quelque sorte, il y a des stratégies de carrière d'individus qui ont, en quelque sorte, capitalisé la notoriété liée à 68 pour après s'investir dans les lieux de pouvoir. Eh bien, je dois dire que quand on lit ces auteurs, c'est un peu ambigu. Dans certains textes, on a l'impression que c'est un réquisitoire contre 68 qui est porteur déjà, en quelque sorte, de cette corruption à travers un certain gauchisme qui est perçu comme dangereux, mais un gauchisme qui n'est pas le même gauchisme que la gauche de la gauche qui le critique. Mais d'autre part, parfois, on a l'impression que c'est surtout des trajectoires de traîtres. Donc là, il y a une petite ambiguïté.
Alors, on parle de la gauche, mais en filigrane, il y a aussi une déploration de la fin du communisme.
Déploration de la fin du communisme au sens où il ne faut jamais oublier que la révolte étudiante a été en bonne partie dirigée contre le Parti communiste. Il y avait quand même beaucoup d'intellectuels communistes ou de sympathisants du Parti communiste qui ne l'ont pas oublié en quelque sorte. Et donc je pense que la culture communiste imprègne une partie des contenteurs de mai 68 parce que 68 a en quelque sorte détruit le Parti communiste et donc du point de vue du discours de ses auteurs détruit le parti de la classe ouvrière. Donc je cite aussi quelques textes qui témoignent de cette orientation.
Et l'offensive 68 portée par la gauche républicaine, Serge Audier, la gauche républicaine et on pourrait dire et les souverainistes, gauche souverainiste ou les souverainistes. Vous pointez par exemple les propos d'un homme qui est venu souvent à ce même micro, qui est Emmanuel Todd, le démographe. Précisez la position de Todd, car elle me semble particulièrement intéressante.
Alors, le cas de Todd est très important et le cas de la gauche souverainiste, d'abord je vais en dire un mot parce que c'est extrêmement important dans ce passage, dans ce moment gauche républicaine ou dite souverainiste. C'est un courant qui a été très important dans le débat public, notamment à travers cette fameuse fondation du 2 mars ou fondation Marc Bloch, dont Todd d'ailleurs était un membre important. Je rappelle quand même que Henri Guénaud, dont on présume qu'il a sinon écrit, du moins inspiré le grand discours de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud vient de cette matrice intellectuelle là. Donc c'est très intéressant de montrer l'importance de cette critique de 68. Alors Emmanuel Todd, qui d'ailleurs je crois a depuis pas mal évolué intellectuellement et idéologiquement, dans cette période des années 90, tend à expliquer que les 68ards, en quelque sorte, ont été les grands acteurs du clivage entre la gauche et le peuple. Et donc, l'abandon du peuple par la gauche serait très largement imputable aux 68ards. C'est un réquisitoire qu'on trouve qui a peut-être une part de vérité, mais le problème, c'est la façon dont il est déployé de manière parfois très dogmatique. L'idée que, finalement, dans cette période-là, s'est développé un discours, disons, contre les beaufs, contre les classes populaires, et donc il y aurait eu là un clivage qui aurait eu des effets extraordinairement catastrophiques, d'une part parce qu'elles auraient coupé donc la gauche du peuple, d'autre part parce qu'elles auraient ouvert la voie au Front National et à l'extrême droite.
Et puis toujours à gauche, il y a ceux qui condensent leurs critiques autour de la modernité progressiste. On parlait tout à l'heure d'Alain Finkielkraut, je n'y reviens pas, mais enfin, tous ces gens qui se rapprochent, et évidemment, dans les faits de la position d'Alain Finkielkraut, au fond, dénoncent le lyrisme d'une génération éprise d'abord d'elle-même, une espèce d'égoïsme culturel.
Absolument. Égoïsme culturel, narcissisme, culte de la jeunesse, voilà un petit peu le réquisitoire d'un certain nombre de ces auteurs, qui rejoint d'ailleurs en partie le réquisitoire dont on pourrait parler de Régis Debray. Ce réquisitoire-là consiste à dire effectivement que c'est l'avènement de la jeunesse comme acteur central. Alain Finkielkraut a récemment parlé d'un coup d'état générationnel.
Avec un paradoxe, du moins à première vue, les 68ards finalement étaient des gens plutôt lassés de consommer, et ils auraient rendu possible la promotion sans précédent de la consommation en prônant justement une espèce de métaphysique du désir et du bonheur. Quel renversement si on accepte cette critique ?
Voilà, un renversement extraordinaire, puisque c'est la thèse de ces auteurs et de ce critique de 68. Ils voulaient critiquer le capitalisme, ils voulaient critiquer la société de consommation. Je rappelle qu'à l'échelle internationale, la grande figure, c'était notamment Herbert Marcuse, qui était une des grandes figures de l'école de Francfort, dont tout le discours était une critique de la société technologique et de consommation et de manipulation. Et donc, l'idée, c'est que les 68ards ont critiqué la société de consommation, mais comme ils étaient mus par une auto-affirmation générationnelle et une promotion du désir, ils ont été les acteurs d'un extraordinaire renversement, d'une destruction des mœurs traditionnelles qui était la dernière barrière au déploiement du capitalisme, et qu'ils donc, ils ont été les agents historiques du plein déploiement du capitalisme.
Serge Audier, vous consacrez tout un chapitre à Raymond Aron. Est-ce qu'on doit comprendre que Raymond Aron, qui est quand même loin de mai 68, même s'il a des positions très subtiles sur, au propos de l'université, est-ce que ça serait le père de toutes ces idées ?
Alors, je tenais beaucoup à parler de Raymond Aron, parce que Raymond Aron a été une figure historique extrêmement importante au moment de 68, puisqu'il a pris position très rapidement, notamment d'un livre d'entretien avec Alain Duhamel, où il a pris parti très clairement pour critiquer la révolte étudiante. D'autre part, il a fédéré autour de lui un certain nombre d'universitaires et d'intellectuels qui étaient profondément hostiles à 68. Toute la question à partir de là est de savoir effectivement, est-ce qu'il est le père du discours anti-68 ? C'est ce qu'on entend très souvent à gauche ou à droite. À gauche et à l'extrême gauche, on sélectionne certains propos de Aron pour dire il a dénigré 68, il n'a vu en lui, en cette révolte, qu'un carnaval, et donc il a été un de ceux qui a contribué à enterrer 68. À droite, au contraire, on se réjouit, il a fustigé ou giflé l'émeute, c'est formidable, et il a été un des contenteurs de la révolte. Ce que j'essaye de montrer, c'est deux choses. D'une part, oui, il a été un critique de mai 68, il a été profondément heurté par l'idée que le général de Gaulle, auquel pourtant il avait fait des profondes critiques dans les années précédentes, soit renversé par une rébellion. Cela le heurtait profondément. Il était aussi heurté par le mouvement lui-même, son insolence. Mais d'autre part, quand on étudie de près les textes, on voit plusieurs choses. Premièrement, Aron a été un critique féroce du gaullisme et du régime gaulliste qu'il juge très autoritaire, très vertical et très hiérarchique. Et de ce point de vue-là, il impute aussi la crise aux pathologies du gaullisme lui-même. Deuxièmement, et c'est absolument lié, il juge que il y a dans la révolte certes une dimension irrationnelle, dogmatique, qui lui fait horreur, mais d'autre part il y a aussi une aspiration à plus de participation, à plus d'investissement dans la sphère du travail, à plus de circulation de l'information. Et donc Aron très tôt, et dans des textes de 69 ensuite, pointe l'idée qu'il y a tout de même, notamment dans le mouvement des cadres, mais bien au-delà, une aspiration à une certaine démocratisation de la société française, et que donc 68 pourrait avoir de ce point de vue-là des effets positifs à condition que sa dimension la plus gauchiste ou la plus radicale soit vaincue pour que l'aspiration plus démocratique soit réalisée.
Eh bien Serge Audier, nous allons maintenant faire place au journal et puis dans une dizaine de minutes vous allez continuer à nous expliquer les tenants et aboutissants de la pensée anti-68, étant bien entendu que cette pensée anti-68 est plurielle. Nous allons en reparler dans la seconde partie de cette émission. Je rappelle le titre de l'essai que que vous venez de faire paraître aux éditions La Découverte. C'est un des meilleurs ouvrages publiés à propos du 40e anniversaire des événements de mai 68. Son titre, La pensée anti-68, essai sur les origines d'une restauration intellectuelle. Vous souhaitez plus de renseignements? Alors écrivez-nous à l'adresse de l'émission, je vous la rappelle, idée@rfi.fr. Ce numéro d'idée est mis en onde par Thomas Ferrière, à la réalisation cette semaine, Boris Vichitz. Restez à l'écoute, immédiatement après les dernières informations, vous retrouvez.